Yasmina Garda, vous vous trouvez actuellement à Gaza pour le compte du Bureau de l'aide humanitaire des Nations Unies. Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu sur le terrain en termes de destruction et de besoins de la population civile?
Pour Gaza, il faudrait inventer toute une nouvelle série de mots pour expliquer la situation dans laquelle les Palestiniens se trouvent. Où qu'on regarde, où qu'on aille, c'est destruction, c'est la perte de tout, c'est l'absence de tout et c'est une souffrance extrêmement profonde qu'on trouve dans les yeux des gens et dans les paroles des gens. Les gens vivent au-dessus des décombres et des détritus qui étaient leur vie d'avant. Ils ont faim, très faim, et tout est devenu absolument inabordable. On disait l'autre jour que le coût d'un œuf avait augmenté à $3, ce qui évidemment pour quelqu'un qui n'a plus de salaire et n'a plus accès à son compte bancaire est absolument inenvisageable. L'accès à l'eau propre, c'est une bataille quotidienne, et beaucoup de personnes n'ont pas changé de vêtements en sept mois, parce qu'en fait ils ont dû fuir avec ce qu'ils avaient sur le dos, et en plus depuis ils ont été déplacés 6-7 fois, parfois plus, c'est terrible. Hier, j'ai parlé à une jeune femme de 25 ans qui est traductrice. Elle avait une carrière, elle avait une maison, elle avait un avenir et elle me disait « Je n'ai même plus l'espoir, la force de demander, d'espérer recevoir de la nourriture, de l'eau, une tente adéquate, rien du tout. » Elle habite avec son père et sa grand-mère de 82 ans et deux de ses sœurs qui ont des difficultés physiques. Elle me disait « Ça fait 9 fois qu'on a été déplacés. 9 fois. » Et que, avec chaque déplacement, ils doivent défaire les morceaux de plastique et les morceaux de bois qui constituent leur tente. Et le papa devait placer la grand-mère sur ses épaules et marcher des kilomètres vers une destination absolument inconnue puisqu'ils savent même pas, en fait, où aller et où ils seront un peu plus sûrs. Donc elle m'a dit, moi, je sais que ma maison, elle a été détruite, je l'ai acceptée, il n'y a pas de problème, je suis prête à reconstruire, je suis prête à repartir de zéro, mais j'ai besoin d'avoir l'opportunité de respirer. J'ai besoin d'arrêter d'avoir peur. Je demande pas d'aide humanitaire, je demande juste l'opportunité de gagner ma vie, payer pour mes propres besoins, et pour ça, j'ai besoin de la paix. Et ça, c'est peut-être une des choses qui m'a le plus frappée dans mes déploiements ici, c'est cette détermination à avancer, à garder la tête haute. Et un exemple qui m'a beaucoup frappée récemment, c'est je marchais dans un camp et j'ai vu des familles qui, en fait, construisaient leur propre petite fosse septique système D à la cuillère, en fait. Ils étaient en train de creuser dans le sable un énorme trou et je leur ai demandé qu'est-ce que vous faites. Ils me disent, on est en train de créer une fosse septique. Ils avaient récolté des tuyauteries et des cuvettes de toilettes de plusieurs bâtiments détruits et voilà, ils étaient en train de créer leur propre latrine de fortune à côté de leur tente de fortune. Vous le savez, la situation humanitaire ici ne nous permet pas d'importer les outils qui sont nécessaires pour créer des latrines, comme on ferait dans une autre urgence humanitaire. Et donc voilà, les gens sont obligés de partir sur le système D. Ça, c'est une des choses qui m'a le plus frappée et c'est une détermination qu'on ne trouve pas ailleurs.
Vous vous trouvez à Rafah. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le niveau de destruction là où vous êtes et est-ce que les combats sont proches? Est-ce que vous entendez les combats?
À Rafah, nous, on est dans le côté ouest de Rafah. Les combats ont lieu plutôt à l'est. On entend tout. C'est assez fréquent que les fenêtres et les portes vibrent au rythme de la guerre. C'est une situation qui est très intense actuellement. On n'y va pas fréquemment tant que les combats ont lieu. On a eu deux collègues qui sont partis cette semaine pour faire une mission de reconnaissance et il y en a un qui n'est pas revenu vivant et l'autre qui a dû être évacué médicalement. Voilà, c'est la situation à Rafah. Pour le reste de la bande de Gaza, à Khan Younis, à Deir el-Bala et dans le nord de Rafah, les missions que j'ai effectuées dans ces zones, je peux vous dire que les débris, les décombres sont la norme. Tout est en ruine. Et l'exception, c'est de trouver des bâtiments qui tiennent encore debout. C'est ça. C'est quelque chose d'absolument inimaginable. Je suis sûre que vous aurez vu les images. Mais c'est des décombres. C'est un océan de décombres dans certaines zones.
Quels sont les défis rencontrés par les agences humanitaires pour faire parvenir l'aide aux civils dans le besoin, et notamment quand ces civils sont en déplacement?
Alors, c'est ma deuxième mission à Gaza. J'étais ici il y a 4 semaines. Et en 4 semaines, tout a changé. Comment on entre et on sort de Gaza, les systèmes pour faire rentrer l'aide humanitaire, qui étaient déjà très compliqués, qui sont devenus encore plus compliqués. La majorité de la population à l'époque se trouvait dans le sud. Et là, avec les combats, on a 630 000 personnes qui, en 10 jours, sont montées vers le nord ou se sont déplacées vers la côte. Donc, on a dû complètement changer nos priorisations et notre façon de livrer l'aide humanitaire. Donc ça, je dirais, c'est un des plus gros challenges, c'est... Avec des combats aussi intenses, la situation change constamment. Et donc, dès qu'on met quelque chose en place, il faut le repenser, le refaire et souvent repartir de zéro. La deuxième chose qui a vraiment placé cette réponse humanitaire à genoux, c'est à quel point la situation est dangereuse partout. Comme vous savez, il n'y a pas une seule zone où on soit en sécurité à Gaza. D'ailleurs, la dernière semaine de ma précédente mission, j'ai 7 collègues humanitaires qui étaient aussi des amis qui ont été tués par des frappes aériennes. Et premier jour de mon retour, on a 2 collègues humanitaires qui ont également été touchés à nouveau et dont un n'a pas survécu. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention en permanence. On est constamment en train de notifier les belligérants de nos mouvements. On passe des heures à soumettre, à préparer et à soumettre de la paperasse, à attendre au point de contrôle. Et souvent, souvent, c'est pour rien. En plus, parce que les missions qu'on planifie ne sont pas facilitées et donc du coup, on peut pas les mener à bien. Ça, c'est vraiment 2 challenges assez importants. Après, il y a tout ce que vous pouvez imaginer qui est lié à la connectivité, au fait que les conditions de vie sont très stressantes, puisqu'on a quand même la bande sonore de la guerre en permanence avec les drones, avec les frappes aériennes. Et dans certaines zones où on circule, ben, on trouve des corps sans vie et on doit les ramasser pour s'assurer que ils aient un enterrement digne. Et donc voilà, on voit des choses très difficiles, c'est difficile mentalement, c'est difficile émotionnellement. Les travailleurs humanitaires ici sont à bout, c'est difficile. Mais le pire du pire du pire de tout, et qui en plus est vraiment inédit dans d'autres crises, c'est la difficulté absolue qu'on rencontre quand on essaie de faire rentrer du staff ou quand on essaie de faire rentrer des biens humanitaires. C'était déjà le cas depuis le 7 octobre, mais là, avec la fermeture de la frontière de Rafah le 7 mai, on n'a presque plus rien qui rentre et nos entrepôts qui avaient tous nos biens humanitaires ont été détruits, ils ont été pillés. Et il ne reste presque plus rien à distribuer, en fait, à Gaza. Donc, le peu qui rentre, et c'est vraiment du compte-goutte, le peu qui rentre, il faut le distribuer immédiatement et avec des choix très, très difficiles à faire au quotidien, à prioriser les plus vulnérables, à livrer des portions qui sont partielles. Ça brise le cœur au quotidien. C'est vraiment bon. Voilà, c'est pas évident.
Justement, beaucoup de personnes dans le monde sont bouleversées par ce conflit destructeur. Quel est votre message à ces personnes qui sont bouleversées par ce conflit?
Les gens ici ne comprennent pas comment le monde est en train de permettre que cette situation ait lieu. Je me souviens quand je suis rentrée à Gaza la première fois, le ministère de la Santé avait annoncé que 29 000 personnes avaient été tuées. Quand je suis repartie 5 semaines plus tard, on était à 34 000 d'après leur rapport. Donc, rapide calcul, on parle de 6 personnes qui meurent par heure. La majorité des femmes et des enfants. Et on est en train de laisser que ça ait lieu. On est en train de l'autoriser. J'ai la chance d'être une maman de 2 petits garçons. Ils ont 2 ans et 4 ans. Au moment, ils ne posent pas de questions. Mais je peux vous dire que j'ai très très peur qu'un jour, ils me demandent comment il est possible qu'on n'ait rien pu faire pour arrêter ça. Comment il est possible que le monde ne se soit pas levé en solidarité et n'ait pas exprimé son indignation plus fort et plus fort et plus fort jusqu'à ce que ça s'arrête. Comment on a pu laisser que des enfants aient faim, qui vivent dans une terreur constante et qui passent des mois sans être scolarisés? J'ai pas de réponse. Et donc l'invitation, j'imagine, ce serait de dire, voilà, si vous pouvez contacter vos décisionnaires, il est temps d'exiger que la loi internationale soit respectée. Que les droits de l'homme, les droits humains soient respectés, que la dignité humaine soit respectée. C'est pas grand-chose, en fait, ce qu'on demande. On demande juste que la loi qui existe déjà soit respectée. Parce que cette guerre, c'est une tache noire énorme sur nous tous. C'est la responsabilité de nous tous de travailler jour après jour, de mettre notre petite pierre à l'édifice pour que ça s'arrête. Et donc, voilà, c'est ça mon invitation. Tous les jours, se demander, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, à mon niveau, pour mettre un terme à ce cauchemar ?